Tintin, c'est moi quand j'aimerais être héroïque. Les Dupont, c'est moi quand je suis bête. Haddock, c'est moi quand j'ai besoin de m'extérioriser. Dans ces quelques mots, Hergé dévoile la confusion des sentiments qu'il attache à ses héros. Personnages libérateurs ou persécuteurs, empreintes artistiques de la vie du créateur. Hergé, dans sa bulle, pousse Tintin à résoudre des énigmes qui seront comme autant de mystères à débrouiller pour ses lecteurs. Tintin est à Hergé, il est en lui comme il est en nous. Le fantôme de Georges Remy plane aujourd'hui autour de la grande table et comme les bulles de whisky du capitaine Haddock, nous flottons avec lui. Puis nous sauterons de bulle en bulle, guidés par les mots de l'écrivain polymorphe Benoît Peters. Il est l'heure de passer à table. En guise d'entrée, voici l'éphéméride du jour, évocation d'un autre 26 août. Le 26 août 1914, c'était la naissance de l'écrivain argentin bruxellois Julio Cortázar.
J'ai fait une activité, si vous voulez, politique ou idéologique. Et en même temps, je continuais à écrire des livres qui étaient, si vous voulez, de la littérature pure. Alors après, je me suis posé le problème s'il ne serait pas possible d'établir une certaine convergence, et surtout sans sacrifier la littérature, parce que je tiens à ça, essayer quand même de faire d'un livre un instrument de combat, mais pas dans le sens usuel, c'est-à-dire asservir la littérature, la faire devenir simplement un véhicule de ce qu'on appelle le message. Parce que je crois qu'à ce moment-là, et le message et la littérature sont perdants.
La littérature est Bruxelles, et Bruxelles est le bruxellois le plus célèbre, Hergé, et son héros Tintin. Pour en parler, on retrouve autour de la grande table Benoît Mouchard, bonjour, directeur éditorial de bande dessinée aux éditions Casterman, Benoît Peters, bonjour,
bonjour,
écrivain et auteur de bande dessinée, et Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, bonjour.
Bonjour.
Alors Tintin, Hergé, Tintin, on ne sait pas tellement par quel bout de la lorgnette il faut poser la question, puisque au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus. D'abord sur Hergé, Serge Tisseron.
Oui, alors vous citiez tout à l'heure cette fameuse phrase souvent reprise de Hergé, « Haddock, c'est moi quand je me mets en colère », il aurait pu dire aussi « quand je bois un verre de trop hein, », voilà, « tournesol quand on tourne en rond, les Dupont quand je suis bête ». C'est une phrase reprise de Flaubert, en fait, qui disait
« Madame Bovary,
voilà, Madame Bovary, c'est moi ». Alors, effectivement, il y a un petit peu de Hergé dans chacun de ces personnages, mais finalement, il y a aussi un petit peu de nous-mêmes hein, dans chacun de ces personnages, et moi, j'ai toujours été sensible au fait que finalement on s'y retrouve à tout âge parce que les personnages de Hergé renvoient non seulement, comme il l'a dit, hein, à le moment de colère, à la bêtise, à l'acharnement héroïque de Tintin pour résoudre tous les drames du monde. On vient d'en parler dans les actualités, il y a fort à faire, hein, il nous manque Tintin. Mais les aventures de Tintin nous renvoient aussi chacun à nous-mêmes dans des tranches d'âge différentes. On s'y retrouve quand on a 7-8 ans, on s'y retrouve ado. Évidemment, un héros sans famille, vous vous rendez compte, la belle aubaine pour un adolescent, il n'y a pas à s'en séparer, c'est déjà fait.
Un héros sans famille qui nous rappelle d'autres héros sans famille, puisque oui. Hergé était lui-même un lecteur de sans famille.
Absolument.
Sans famille, Rémy, tout ça, on a l'impression que tout revient toujours.
Il s'en est nourri, il s'en est nourri, un héros sans famille, bien sûr, mais alors, il y a eu des rapprochements qui ont été faits entre le fameux moulin de sans famille, Milgrand et Moulinsart, par exemple, ou Capi, vous savez, le petit chien du héros de sans famille, Capitaine Haddock, voilà. Mais donc Hergé s'est nourri de beaucoup de choses qu'il y avait autour de lui quand il a grandi, et puis voilà, et puis nous autres, hein, Benoît Peters, Benoît Mouchard, vous peut-être, hein, voilà, et bien, nous nous sommes nourris de Tintin en grandissant, et je crois que beaucoup d'œuvres aujourd'hui, beaucoup d'artistes hein, rendent hommage à Hergé, à leur façon, Apostolides par exemple, hein, c'est vraiment aujourd'hui une mine qu'on n'a pas fini de creuser.
Benoît Mouchard, si on reprend cette question de la biographie, on peut aussi complètement la retourner et dire voilà, peut-être que Hergé, lui, est devenu héros par Tintin.
Oui, on peut dire aussi qu'Hergé s'est beaucoup caché derrière Tintin de son vivant. C'est pas le cas, par exemple, d'autres auteurs de bande dessinée comme Moebius ou comme Hugo Pratt, qui étaient presque des artistes vivants, plus connus même parfois que certaines de leurs œuvres. Hergé est resté un mystère tout au long de sa vie. Il reste malgré tout un mystère, même si on sait beaucoup de choses, parce que toutes les archives, ce qui est un fait assez exceptionnel en biographie, je crois, toutes les archives ou presque ont été vraiment scrutées sous tous les angles. Donc il y a peu de choses qu'on ne sache pas de sa vie, qui de toute façon était en grande partie consacrée à l'exercice de son œuvre et de son travail. Et c'est vrai que peut-être en savoir plus sur Hergé, comme le disait Serge Tisseron, on a tous un regard lié à l'enfance, mais aussi une découverte du monde qui passe par Tintin, et qui est toujours le cas pour des lecteurs à travers le monde, y compris en Chine. Aujourd'hui,
où la série est traduit partout.
Partout, et en Chine, ça reste 1 million d'albums par an, ce qui est vraiment énorme. Enfin, c'est incroyable.
Sans compter toutes les éditions pirates en Chine qui fleurissent.
Alors, il y en a moins. Il y a des anecdotes que je ne pourrais pas raconter à l'antenne sur les éditions pirates chinoises.
Mais il a été connu en Chine grâce aux éditions pirates. Absolument. Dans un premier temps. C'est-à-dire que dans une époque où il n'y avait pas de livres et pas du tout de bandes dessinées, il y avait de tout petits fascicules qui circulaient. Et quand les albums ont été mieux édités, mieux traduits de manière authentique et valide sur le plan des droits, eh bien, c'était déjà la deuxième génération de lecteurs. Et voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une transmission aux lecteurs chinois. C'est aussi un hommage merveilleux, évidemment, à ce lien que Hergé avait eu avec la Chine depuis le début, puisque le Lotus Bleu, un des premiers albums, c'était la rencontre de Tintin et d'Hergé avec la civilisation chinoise, un dialogue entre les cultures.
Et la vraie rencontre d'Hergé avec Chang aussi.
Voilà. Donc là, il y a quelque chose de magique et de miraculeux. Mais il y a beaucoup de magie, finalement, autour de cette œuvre. C'est que... Un petit Belge autodidacte dans un milieu étroit et un journal très marqué à droite rencontre un jeune étudiant chinois et sympathise avec lui, s'ouvre à cette culture, se laisse transformer. Et cette leçon d'antiracisme qui est donnée dans le Lotus Bleu par l'amitié de Tintin et du jeune Chang, eh bien, elle parle toujours aujourd'hui. Ça, je crois que c'est tout à fait exceptionnel de penser qu'une œuvre qui a été nourrie de l'actualité des années 30 soit lu aujourd'hui en France, en Belgique, aux États-Unis ou en Chine, et soit lu comme si ces valeurs fondamentales restaient fortes et parlantes. Il y a très peu d'œuvres de cette époque-là qu'on peut lire, surtout dans les œuvres destinées à l'enfance, qu'on peut lire sans sourire, qu'on peut lire sans second degré. On aime Bécassine et Les Pieds Nickelés, mais c'est des œuvres qui appartiennent à l'histoire. Tintin, pas du tout.
Il y a une universalité.
Alors Tintin, il y a quand même eu des albums extrêmement décriés. On peut pas ne pas en parler, Benoît Peters. On peut pas dire que ça ait toujours été un modèle d'antiracisme,
bien
qu'il n'ait pas véhiculé
sûr,
un certain
bien
nombre.
Bien sûr, on ne va pas dire, on va pas propos. Faire de Saint Hergé et dire que toute l'œuvre passe le temps parfaitement.
Ce qui les est Soviets, extraordinaire, le Congo,
ce qui est extraordinaire, c'est la capacité d'évolution. Il commence par quelque chose de très étriqué, de très réactionnaire, qui reflète les préjugés de son temps, et il s'y arrache très vite pour aller vers l'ouverture et l'universalité.
Il ne faut pas oublier qu'Hergé n'est pas un intellectuel quand il crée Tintin. Hein. Il a 21-22 ans.
Vous racontez la petite histoire, voilà.
Il a 21-22 ans, il est quand même sous la férule d'un homme très conservateur, et il a une très forte personnalité qui l'impressionne énormément, qui s'appelle l'abbé Wallet. Et l'abbé Wallet, ça plaira beaucoup à Serge Tisseron, disait en général où Tintin devait aller. C'était vraiment l'abbé Wallet qui disait « Tintin va en Russie pour dire que les communistes sont épouvantables. Tintin doit aller au Congo pour évidemment vanter les vertus de la civilisation occidentale, etc. etc. »
Susciter
des vocations coloniales. En Amérique pour dénoncer le capitalisme protestant, hein, c'était vraiment ça. Et puis arrivent les cigares du pharaon, et là l'abbé Wallet, en fait, c'est un fait qui est aujourd'hui connu, il est licencié du XXe siècle, qui est le journal où paraît Tintin. Et donc l'influence de l'abbé Wallet va de plus en plus se distendre, Hergé va rencontrer Chang, comme vous l'avez dit, et son ouverture
c'est
au monde...
C'est aussi la césure de la guerre. Hein.
C'est avant, c'est
ça
déjà
se passe
avant.
Juste avant la guerre.
Non, on est quand même déjà, on est en 33, donc c'est...
Il ne faut pas oublier que la moitié de l'œuvre d'Hergé, elle est faite dans les années 30, à un rythme très soutenu et tout seul. On a parfois l'impression qu'Hergé, c'est une espèce de Walt Disney européen, qui avait toute une équipe autour de lui. Ça, c'est la situation très tardive. Dans les années 1929, c'est la création des soviets, jusqu'à presque la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hergé crée seul les deux tiers de son œuvre.
Et il travaille
et avec
temps.
Une énergie incroyable, à tel point d'ailleurs que les grandes crises dépressives qu'il aura après la guerre, que maintenant on connaît
en
bien,
47,
c'est aussi des crises,
s'arrête de travailler
c'est
en
des
47,
crises de surmenage. Oui. C'est quelqu'un qui s'est investi à un niveau fou dans ces histoires dont il était à la fois le scénariste, le dessinateur, le coloriste, le décorateur, etc. Il jouait les rôles lui-même. Il y a quelque chose là qui allait bien au-delà de la considération ou du peu de considération dont la bande dessinée bénéficiait à l'époque.
Serge Tisseron, qu'est-ce qu'on peut dire? En 1947, Hergé s'arrête de travailler pendant un temps. Il fait une pause. Il a été comme happé, englouti par ce travail autour de Tintin.
Oui, alors il a beaucoup travaillé, comme dit Benoît Pitard, c'est sûr. Mais je pense aussi que les nouvelles conditions de travail qui lui sont proposées après la guerre l'amènent à repenser beaucoup de choses. Hein. Il doit quand même réduire le format des albums, réduire le nombre de pages, passage à la colorisation, embaucher des gens. C'est peut-être pas quelque chose qu'il avait prévu dans son cursus, hein, de devenir un petit patron d'entreprise.
Eh bien voilà. Si, on si, a il l'avait des prévu. Notes des années 30 dans un carnet qui est un carnet de scénario, oui. Où il dit, par exemple, créer une boutique Tintin, produits dérivés.
Ah, d'accord. Ah, il avait pensé engager, aux produits dérivés, déjà.
Engager des assistants scénarios, bon. Assistants décor. Donc, non, il y a une ambition vraiment de revanche d'accord. sociale chez Hergé aussi.
Mais en revanche...
Sur la question de la dépression de 1947 chez Hergé, ou en tout cas, ce truc, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant quand il dit « c'est toute ma vie » Tintin, c'est toute ma vie, j'y mets toute mon énergie.
Oui, comme beaucoup de grands créateurs, hein, mais d'ailleurs la preuve, c'est qu'il abandonne assez vite d'autres productions dans lesquelles il s'était engagé, hein,
Josette et Joko.
Voilà, mais je crois, peut-être aussi, je sais pas, peut-être aussi il y a le regard qui porte après coup sur son œuvre. Tintin au pays des soviets n'est pas réédité.
Il le renie, et c'est l'album renié.
Voilà.
Hein.
Donc, c'est un peu plus compliqué, parce que les films étaient perdus, ça aurait demandé beaucoup de travail, il n'est pas opposé à la réédition. Et finalement, d'ailleurs, Tintin au pays des soviets, il n'y a pas de quoi rougir.
Ah, vous pouvez
aujourd'hui,
rougir,
c'est un album...
Le terme est bien choisi, voilà, aujourd'hui,
c'est
oui.
un album gorbatchevien, avant la lettre. Voilà. C'est un pendant du voyage en URSS d'André Gide, par certains côtés. C'est-à-dire, c'est un livre qui... malgré le fait qu'Hergé n'était pas allé sur place et travaillait à partir de la propagande, finalement, par exemple, décrit une scène d'élection truquée qui est tout à fait magnifique. Décrit la manipulation des touristes anglais qui voient de la fumée s'échapper de pseudo-usines où on fait brûler de la paille. Beaucoup de livres qui venaient d'horizons différents disaient la même chose. Je crois que Hergé, finalement, il y a aujourd'hui des albums qui nous posent problème, le Congo bien sûr, parce qu'on oublie parfois de le situer dans le temps, parfois on mélange ça avec l'attitude d'Hergé pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'était pas tout à fait du bon côté et qui n'est sûrement pas étrangère à la dépression qu'il
parce
a,
qu'il a continué
au
à
lendemain
travailler
d'ailleurs
au soir.
Il a continué à travailler dans un journal contrôlé par l'occupant, des histoires
le soir volé,
apolitiques,
hein, si on nommait le soir volé.
On l'appelait le soir volé, officiellement c'était le soir, il ressemblait au grand journal Le Soir d'avant-guerre, sauf qu'il était sous contrôle, et Hergé apportait là une sorte de bulle d'air, d'évasion, mais il cautionnait en même temps le contenu d'un journal assez dégueulasse. Voilà, donc tout ça se mêle après la guerre et fait qu'au fond une œuvre créée dans un premier temps dans l'impulsion et l'innocence est une œuvre, comme le disait Serge Tisseron, qui commence à lui poser des questions sur lesquelles il revient, sur lesquelles il s'interroge, et là le doute entre chez lui.
Et on va écouter une archive là-dessus.
Néanmoins, je voudrais savoir si c'est le reflet de votre idéologie personnelle ou si c'est simplement le reflet d'une époque. Ça, j'aimerais bien que vous en expliquiez.
Pour le Tintin au pays des soviets, c'est certainement un mélange des deux. Je travaillais à ce moment-là dans un journal catholique, donc d'extrême droite. Et là, l'ennemi public numéro un, c'était évidemment le bolchevique. Et il y a autre chose, j'y ai pensé à ça tout récemment, à l'occasion de la sortie de ce livre. J'ai reçu, alors que j'étais adolescent, toute... l'histoire de la révolution soviétique, l'histoire de la révolution d'octobre, d'abord, puis le massacre de la famille Romanov, ça m'a frappé d'horreur. J'avais 14-15 ans quand les nouvelles sont arrivées. Et je me demande si ce n'est pas pour me délivrer de cette espèce d'horreur, de ce massacre dans cette cave, de toutes ces histoires effroyables, j'avais vu des films aussi, et si ce n'est pas pour me délivrer de ça que j'ai fait une histoire à la farce, c'était un temps au pays des soviets. Mais il est certain que ça se passait dans un contexte politique, c'était un journal catholique et un journal d'extrême droite anti-soviétique. Vous savez, on baignait dans une atmosphère anti-soviétique tout le temps.
Benoît Mouchard, on entend aussi qu'à travers l'histoire de Tintin racontée par Hergé, c'est toute l'histoire du XXe siècle qui rejaillit et même plus.
Oui, on peut même parfois relier l'actualité avec certains albums, on l'a fait... notamment pendant la guerre du Golfe à propos de Pays de l'Or Noir. Ça arrive très très régulièrement, même quand le célèbre avion qui a disparu, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs où il est devenu, on s'est demandé si c'était pas un détournement d'avion comme dans vol 714 pour Sydney.
L'actualité le traverse, il dit qu'il ne s'inspire pas nécessairement de l'actualité, mais elle le traverse, elle rejaillit comme ça de temps en temps dans son œuvre.
C'est une éponge, Hergé, il a une mémoire visuelle extraordinaire, il a vu énormément de films muets quand il était enfant, il a peu lu en fait, mais il était effectivement, d'abord il travaillait dans un journal dans sa jeunesse. Donc l'actualité, elle arrivait, il entendait des conversations de journalistes aussi. Et effectivement, c'était pas un journal anodin, ce journal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Hergé est un cérébral. C'est pas un intellectuel, mais c'est un cérébral. Et il réussit, en fait, à chaque fois, au-delà de l'anecdote, trouver l'idée de ce qui se passe. Par exemple, dans L'oreille cassée, l'idée du coup d'État permanent, ou aussi même dans le sceptre de Tokar. Quand il dessine une voiture, là aussi, il atteint l'universalité, c'est-à-dire qu'il dessine des voitures qui sont marquées par une époque, mais qu'un enfant d'aujourd'hui identifie comme étant, en fait, l'idée d'un véhicule. Il y a cette force-là qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il reste une référence pour des graphistes comme Chris Ware, comme Charles Burns, des grands dessinateurs américains, ou même des dessinateurs comme Jiro Taniguchi au Japon.
Serge Tisseron, à travers ce que raconte Hergé, les massacres, les traumatismes qu'il a pu vivre en tant qu'enfant, en absorbant aussi des événements d'actualité, ils ressortent dans le dessin. Il y a un prolongement artistique à chaque fois qui permet de lire à chaque fois son œuvre de plusieurs dimensions. La dimension personnelle, la dimension politique.
C'est la grande force de Hergé. Hein. C'est ça qui fait qu'il a eu un peu moins de succès pour la génération qui l'a suivi, mais qui recommence à avoir beaucoup de succès. Parce que dans les années 1980, pour beaucoup d'enfants, c'était la génération de papa ou de grand-papa. Mais aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que en fait, il nous informe énormément, ben on l'a dit, hein, sur ce qu'était l'idéologie colonialiste, sur ce qu'était une certaine représentation de la révolution russe à l'époque, alors avec beaucoup d'exactitude, mais aussi beaucoup de caricatures. Et puis Tintin au Tibet, hein, dans lequel on peut découvrir les objets de la vie quotidienne dans les monastères tibétains en lisant Tintin au Tibet quand même. Donc ça, c'est quelque chose dont il est rare de trouver un équivalent dans la bande dessinée. Donc Hergé a su effectivement mettre en scène dans ses albums avec beaucoup de courage d'ailleurs, des situations qui habituellement échappaient à la bande dessinée pour enfants. Le suicide de Wolf
On a marché sur la lune.
Le suicide dans Tintin au pays de l'or noir de Muller, qui veut se suicider mais il a le revolver de l'infâme Abdallah qui avec un pistolet à eau, donc
oui.
Là il n'y arrive pas, mais il y a quand même l'intention de le faire. C'est quand même quelque chose qui n'est pas banal du tout. Donc oui, je ne doute pas qu'Hergé en effet ait su mettre dans son œuvre des situations traumatiques qui n'étaient pas habituellement présentes dans la bande dessinée,
qui étaient présent dans la littérature. Ça reprend presque des grands procédés de la littérature, à savoir raconter une histoire globale à travers des histoires incarnées.
Oui, absolument, et avec un sens du texte aussi, hein, dont on oublie souvent l'importance. Moi, je conseille à tous ceux qui nous écoutent un jour de proposer à un ami de lire Tintin dans la pièce à côté et eux d'écouter le texte. Eh ben, on s'aperçoit que le texte est absolument formidable.
Ça s'est fait à la radio, ça.
Voilà, c'est absolument. Je voyais, voilà. Et donc ça aussi, ça concourt énormément à la force de son œuvre. Ce que dit Wolf avant de se suicider, c'est poignant, quoi. C'est de la grande littérature. Voilà, donc il a su en effet mettre dans son œuvre des éléments de la culture dans laquelle il baignait. De ce point de vue-là, il était un remarquable journaliste, hein, voilà, sans porter de jugement de valeur. Alors aujourd'hui, on peut dire devant Tintin au Congo, ben quand même, il aurait dû aiguiller un petit peu le lecteur sur un esprit critique. Ben oui, mais c'était comme ça que les gens pensaient à l'époque. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir duré. On ne peut pas lui reprocher d'avoir duré. On ne peut pas lui reprocher d'avoir collé à son époque non plus.
Tout ce qu'on fantasme vision rétrospective.
Ce que je regrette, moi, en tout cas, c'est qu'il n'y ait pas une page d'explication dans Tintin au Congo ou peut-être dans d'autres albums, parce que je pense que ça aiderait beaucoup, beaucoup de lecteurs, et pas seulement des enfants, ça aiderait beaucoup de lecteurs des pays, des anciens pays colonisés pour savourer Hergé sans avoir l'impression qu'on continue à les tourner en ridicule impunément. Voilà.
Donc je pense que ça, il faudrait réfléchir. Vous savez que la première réédition de Tintin au Congo en fait n'a plus été exploitée par Casterman entre 62 et 72, si je ne me trompe pas, et le premier pays où Tintin au Congo a été réédité, c'est le Zaïre à l'époque, parce que justement les Zaïrois, comme on disait, donc les Congolais aujourd'hui, considéraient que c'était un témoignage de la manière dont les Occidentaux les regardaient, et ça les fait rire en fait, Tintin au Congo.
C'est devenu presque un document.
Oui,
c'est presque un document, ça a changé de place.
Et le pays d'Afrique où il y a le plus de dessinateurs de BD.
Oui. Donc
c'est dire que par-delà ce paternalisme et le côté un peu lourd de certaines scènes, il y a eu d'abord une drôlerie qui a été perçu, je pense, par tout le monde, et puis finalement un amour de la BD qui est passé. Donc c'est l'ironie de l'histoire, la ruse de la raison. Je crois qu'une des beautés de l'œuvre d'Hergé, une chose quand même extraordinaire, c'est qu'à une époque où la bande dessinée n'était rien, où elle était balbutiante, Hergé a cru qu'on pouvait tout y mettre, qu'on pouvait parler de tout et qu'on pouvait parler aux enfants sans infantilisme et sans niaiserie. Mmh. Quand on pense à ce qu'est l'alcoolisme du capitaine Haddock, c'est un alcoolisme réel. Mmh. Quand on pense à l'intensité de certains cauchemars, je parle en présence d'un psychanalyste, mais on sait la force qu'ils peuvent avoir, le fantasme. Il a pris les enfants au sérieux et les enfants l'ont aimé parce qu'il les respectait. C'est étonnant, cet homme n'a pas eu d'enfants. Mais il a su parler au lecteur comme aucun éducateur de ce temps ne
faisait. Mais c'est l'enfant en lui, là.
Oui, c'est l'enfant en lui. Et c'est aussi le fait que les publications pour la jeunesse ne faisaient pas l'objet de la même attention scrupuleuse de la part du législateur qu'aujourd'hui.
Alors, regardez,
les censures de Spielberg par rapport à son adaptation de Hergé.
C'est discutable, parce qu'à l'époque, il existait, enfin particulièrement après-guerre...
Oui, ça dépend de quelle époque on parle, parce que...
La loi du 16 juillet 49, elle a pesé très fort sur la bande dessinée, très fort.
Mais pas sur certains aspects de la bande dessinée, notamment
l'absence de femmes,
la nudité, mais pas l'alcoolisme.
Non,
et à peine la violence.
En effet, la violence un petit peu.
On a une archive qui parle de ce statut de la bande dessinée dans le monde de la culture.
Tintin ?
Oui.
À quelle occasion va-t-il avoir sa statue ?
Oh, parce que c'est le 30e anniversaire de l'hebdomadaire, hein. Mais Tintin, le personnage, va avoir sa statue dans un parc de Bruxelles. Ça vous paraît normal ?
Non, je crois que c'est une blague.
C'est sérieux ? Non, c'est sérieux.
À vous tout d'abord, monsieur le ministre, un tout grand et respectueux merci pour avoir eu la gentillesse de venir ici inaugurer cette statue. Vous avez ainsi, de manière officielle en quelque sorte, associé la culture à la bande dessinée à travers Tintin. Et cela, mes confrères en bande dessinée, moi-même, vous en sommes très reconnaissants. Et nous n'en sommes pas peu fiers.
Benoît Peters, ça se passe en 1976. Et on sent que la bande dessinée, justement, change de statut.
Ah oui, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Hergé, c'était quelques mois plus tard. Et j'étais jeune étudiant en philosophie, etc. Et j'étais complètement surpris que des jeunes comme l'ami qui m'accompagnait et moi, nous nous intéressions à son travail. Il avait presque l'air gêné. Alors, il y avait chez lui une vraie modestie, une ouverture très grande à la fin de sa vie à la culture et une position ambiguë par rapport à la bande dessinée. Dans le fond de son cœur, je crois qu'à la fin de sa vie, il savait que la bande dessinée était un moyen d'expression à part entière. Et là où certains de ses collègues rêvaient de la peinture, lui, il avait compris que c'était là que ça se passait. Mais quand il rencontrait un grand philosophe comme Michel Serres, qui a écrit sur Hergé dès les années 70, il se sentait un peu complexé. Il avait presque du mal assumer d'être l'auteur de cette œuvre, et il disait très joliment « L'œuvre se développe comme le lierre. Elle suit son propre chemin sur le mur et finalement, j'ai été dépassé parce que j'ai fait mes intentions sont pour peu de choses. Vous y lisez autre chose. » Mais ce qui a été extraordinaire, c'est au fond de mettre cette énergie, cette patience et cette passion dans un médium encore peu considéré, oui, et pendant 50 ans. Ça c'est quand même exceptionnel.
On peut dire aussi qu'Hergé, bien sûr, n'est pas le premier auteur de bande dessinée, mais comme on invente un trésor, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose qui existait déjà, il a réinventé pour lui-même la forme bande dessinée.
Et il suscite un intérêt qui n'existait pas avant, hein.
Oui, il est un des premiers auteurs de bande dessinée avant même Astérix, par exemple, à être recommandé par Le Figaro littéraire à l'époque, et donc des publications qui...
Il y a un livre sur lui chez Gallimard en 1959. Ouais. C'est le premier livre, je pense, sur un auteur de BD européen.
Ça devient un objet, c'est complètement anachronique de dire ça, mais de pop culture, de pop philo, un objet d'étude...
Oui,
qui sort du champ de la bande dessinée.
Et c'est infini, en fait. Effectivement, il y a des variétés d'interprétations très grandes. Je pense qu'on pourrait
Jusqu'à Serge Tisseron, qui lui s'est mis sur les traces de Tintin. Et peut-être qu'il faudrait commencer par parler de ce désaccord fondamental entre vous, messieurs, sur la question des personnages. Alors, il y a la Trinité, que vous n'exposez pas de la même manière. Pour vous, justement, comment est-ce que vous présenteriez ces personnages de Tintin, qui est une sorte de figure neutre, Serge Tisseron ?
Oui, alors d'abord, je voudrais revenir en quelques mots sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, cette souffrance de Hergé, le fait d'ailleurs qu'à un moment de sa vie, il a commencé une analyse et son psychanalyste lui a dit, c'est pas tout à fait un psychanalyste comme on connaît en France, hein, un psychanalyste Jungien, et qui lui a dit, ben écoutez, il faut que vous arrêtiez de dessiner, et puis il a fait le choix de plus aller voir le psychanalyste et de dessiner encore plus. Voilà. Et donc je crois que c'est important parce que Hergé a vraiment utilisé sa puissance de création et donc la construction des aventures de Tintin pour repenser sa vie, pour réorganiser sa vie mentale, sa vie intérieure. Et je crois que c'est ça qui bouleverse autant le lecteur. C'est parce que Hergé a travaillé avec toutes les fibres de lui-même pour les repenser autrement, pour les tisser autrement, qu'aujourd'hui, quand on lit les aventures de Tintin, on peut être questionné sur des problèmes aussi fondamentaux que la souffrance, l'abandon de l'autre, la séparation, des choses qui sont rarement aussi présentes dans la bande dessinée.
Et en même temps, il y a tout ce qui est absent de cette bande dessinée.
Oui.
Vous évoquez les femmes, toute
oui,
forme de... Alors, c'est une bande dessinée relativement asexuée, on dit.
Oui, alors là, vous me servez des choses sur un plateau. Alors, d'abord, il y a la représentation des femmes dans la bande dessinée à l'époque. Hein, c'était évoqué tout à l'heure par Benoît Mouchard. Il y avait quand même des contraintes du législateur pour éviter ce qui pourrait exciter trop précocement nos chères têtes blondes. Et puis,
ah là, il n'y avait pas trop de risques.
Mais il y avait pour moi aussi le fait que les aventures de Tintin tournent autour de représentations qu'Hergé s'est construite dans son enfance, autour d'une situation familiale assez énigmatique pour lui, probablement, et une situation de secret, pour le dire bêtement, voilà, simplement. Et donc, du coup, je pense qu'Hergé a beaucoup travaillé avec des constructions qui s'étaient faites quand il était enfant, dont les préoccupations sexuelles
étaient
absentes. Il faut
nous les
raconter, voilà.
Nous les raconter, Serge Tisseron, voilà. Puisque vous restez très, très abstrait. Il y a des secrets sur lesquels vous avez travaillé, vous, en lisant Tintin, vous avez senti des secrets.
Oui, alors en fait, moi, je lisais Tintin quand j'étais enfant, et puis il y avait deux questions sur lesquelles je butais toujours. La première, c'est de savoir pourquoi les Dupont, qui sont à peu près jumeaux, semble-t-il, ont pourtant deux patronymes différents, Dupont avec un D, Dupont avec un T. Et puis l'autre question qui me préoccupait, c'était de comprendre pourquoi les fameux parchemins, vous savez, dans le secret des licornes, dans le Camelot Rouge, pourquoi les fameux parchemins censés destiner, censés orienter, diriger les héritiers du capitaine Haddock vers le trésor de son ancêtre, les mener en fait à un endroit où il n'y avait rien. Ça, je me disais, mais si on donne à ses descendants le code d'un coffre-fort en Suisse pour qu'ils aillent récupérer le magot, si le jour où ils y vont, ils trouvent le coffre vide, il y a de quoi se demander qu'est-ce que l'ancêtre voulait bien pouvoir dire. Voilà. Et donc, je suis resté avec ces questions. Puis, bon, quand je suis devenu adulte, j'ai lu les aventures de Tintin avec mon jeune fils, et puis j'ai repris ces questions. Et c'est là que je me suis mis à phosphorer autour de l'idée qu'il pourrait y avoir en effet un secret caché dans les aventures de Tintin que j'ai trouvé comme étant le secret de filiation du chevalier de Haddock, qui pourrait être
le chevalier de Haddock, qui est l'ancêtre du capitaine Haddock.
Voilà, fils bâtard non reconnu du roi Louis XIV. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup d'indices dans Hergé qui permettent de tirer ce fil-là. Et à partir de là, donc l'idée que Hergé pourrait être porteur lui-même je dirais pas d'une histoire familiale semblable, parce que l'histoire familiale des gens, on la connaît jamais vraiment.
Il y avait
dessinée. Mais en tout cas, d'un secret de famille qui pouvait lui laisser entendre cela. Donc, j'ai jamais dit que Hergé avait un ancêtre royal, mais j'ai dit que tout dans sa famille pouvait le laisser imaginer que c'était le cas, ce qui est bien différent. Voilà, donc
Hergé, l'histoire du père d'Hergé,
un père énigmatique.
Un enfant non reconnu.
Alors, en fait, c'était le père de Hergé, qui avait un père... douteux, disons, on ne savait pas
on
très bien
pas,
qui c'était,
fait.
Ou si quelqu'un le savait, il ne le disait pas, tout au moins, Donc une histoire généalogique marquée par un secret de filiation que Hergé aurait reporté dans son œuvre. Et puis bon, comme le sait bien Benoît Peeters, nos deux collègues Thierry Smolderne et Pierre Sterckx ont donc montré en 1987 qu'en effet, la vie de Hergé avait été marquée, sinon par cette réalité historique, du moins par toute une fantasmatisation familiale autour d'un père énigmatique, caché, peut-être royal, etc.
Benoît Peeters.
Oui, il y a quelque chose d'assez joli et d'assez fort, d'ailleurs, de ce point de vue-là. C'est qu'un homme a été chargé d'assumer le rôle du père. C'était
le rôle du père d'Hergé, il faut.
Oui, le rôle du père d'Hergé. Et, non, du du grand-père d'Hergé, un certain Philippe Remy, qui avait 12 ans à l'époque où était né le père. Donc c'était vraiment quelque chose, une reconstruction, un faux père. Et Hergé lui-même, très tôt, va se forger un pseudonyme en faisant disparaître ce nom d'emprunt. Donc le nom dont on l'a affublé, Remy, dont vous avez dit tout à l'heure que c'était aussi un écho du prénom de sans famille, donc tout ça marche très très bien ensemble, et bien que fait Hergé? Il manipule ses initiales, il cherche de plusieurs façons, Georges Remy, G.R., G.R. devient Hergé, on trouve une manière de l'écrire, et donc de faire disparaître non seulement la personne, mais la généalogie. Et je me souviens de ce mot qu'Hergé aimait beaucoup, ce mot de Jules Renard, et qui évidemment, à la lumière des propos de Serge Tisseron, prend un sens énorme. Jules Renard dit « Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin ». Et donc, quand Hergé dit ça, ça a l'air d'une boutade. Il le dit à propos de Tintin. Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Tintin, il est libre, il n'a pas de compte à rendre,
Tintin,
il est l'aventure même.
C'est...
Et tout d'un coup, vous vous dites « Mais... tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin », mais en fait, c'est une phrase énorme. De même que, dans la dernière interview que j'ai faite de lui, quelques semaines avant sa mort, j'interroge Hergé sur un autre blanc de son histoire, qui est sa mère. Absente de toutes les interviews, de tous les propos.
Était probablement folle, difficile.
Non, elle mais je ne le savais pas. Elle était mélancolique depuis son enfance. Elle est morte folle, mais folle alliée dans un asile. Et Hergé me dit ces mots avec un peu de réticence. « Oui, c'est vrai. J'ai l'impression de l'avoir très peu connue. » Or, elle est morte quand il avait près de 40 ans. Donc mais c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, vous voyez le puzzle s'assembler. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'au fond, nous pouvons lire Tintin comme enfant et comme adolescent sans rien savoir d'Hergé, sans rien savoir de tout cela. Mais que plus nous découvrons de choses sur Hergé, plus l'œuvre prend de l'épaisseur. Et c'est ce qui explique peut-être cette littérature exégétique inouïe sur Tintin, 400 volumes aujourd'hui, comme si on avait l'impression que l'œuvre, derrière sa simplicité apparente, derrière cette fameuse ligne claire qui caractérise le style d'Hergé, que l'œuvre continuait à nous résister, qu'elle est porteuse
un mystère,
non seulement de secrets, mais de
mystères.
C'est
la chaîne de mystères.
Exactement.
Mais Benoît Peters, il y a quand même un élément que vous avez évoqué, vous, c'est que vous imaginez la trinité, justement, Haddock, Tournesol et Tintin, et vous imaginez plutôt des générations. Il y a ces deux points de vue, Serge Tisseron.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, ayant beaucoup travaillé sur les secrets de famille, c'est normal, je me suis intéressé aux générations. Mais là où je rejoins complètement Benoît Peters, c'est que c'est vrai, c'est une œuvre cryptée. C'est cryptée, on ne sait pas ce qui se cache derrière, mais on a l'impression quand on la lit que quelque chose se cache derrière.
Alors, et plus elle se cache, et plus elle est riche.
Voilà, et peut-être une extraordinaire tristesse, une fascination pour la mort, la question de l'alcoolisme, mais des choses qui sont effleurées, et puis un secret familial qui est mis en scène dans le secret de l'hélicoptère, dans la Came Rouge, mais qui est mis en scène de manière complètement elliptique, hein, parce que, encore une fois, je suis toujours étonné que personne n'ait pointé le fait que les deux Dupont, qui sont jumeaux, n'ont pas le même patronyme.
Donc ça interroge même... beaucoup d'enfants.
Oui, mais beaucoup d'adultes l'oublient, parce que j'ai jamais vu personne avant moi dire « mais quand même, c'est un problème ».
Mais le secret des noms, il est vaste chez Tintin, puisqu'il y a aussi le choix des noms des uns et des autres. Alors, il y a Tournesol qui aurait été inspiré par le professeur Picard.
Oui.
Mais il y a Milou,
beaucoup, oui,
qui serait
Milou
la, qui, bon, viendrait de la première petite amie.
Oui, qui s'appelait Marie-Louise.
Est-ce que c'est vrai, ça?
Ah oui,
c'est
vrai. Sûr.
Oui, c'est vrai.
Quelle belle histoire. Marie-Louise.
Et alors, j'ai même entendu une histoire que Hergé avait été voir le père en disant qu'il était amoureux de Milou et que le père lui aurait dit Milou, Tintin.
Non, ça
c'est
des chansons. Ah, c'est vrai.
Mais, c'est tous les fantasmes après, hein, sur cette histoire.
On parlait de la famille d'Hergé. Le père d'Hergé avait un jumeau.
Oui, les Dupont, c'est le père et l'oncle.
C'est le père et l'oncle.
Avec leur canne et leur chapeau.
Ils s'habillaient toujours de la même façon et à la fin de leur vie, se promenant à Bruxelles, dans les quartiers que Tintin décrit, dans ces petites rues de Terbeek et d'Ixelles, on les appelait les Dupont. Sans faire le rapport, les gens disaient « Ah, je connais ceux qui font les Dupont ».
Il y a aussi l'histoire de Trifon. Trifon, c'est un prénom qu'il a retenu d'un menuisier.
Oui, c'est un menuisier, oui. Non, mais il a mis tout d'attente. Ce qui était autour de lui. Il faut imaginer, par exemple, aussi une chose très simple. Tous les meubles du studio Hergé, et des studios Hergé, sont dessinés dans les aventures de Tintin. Donc, il s'est servi de tout ce qu'il pouvait regarder. Et encore une fois aussi, je pense que Serge Tisseron et Benoît Betters l'ont très bien dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette œuvre, elle n'appartient plus à Hergé. Elle nous appartient à nous en tant que lecteurs. Et c'est sans doute aussi ce qui explique parfois des malentendus qu'il peut y avoir sur la question des droits, par exemple, de l'œuvre. C'est qu'on aime tellement Tintin qu'on a le sentiment que ça nous appartient à nous aussi, comme par exemple si on prend un autre...
Ça pose le problème de toutes les adaptations.
Oui, mais même regardez les fans de Star Wars qui décrètent que George Lucas n'est plus digne de faire finalement Star Wars et que c'est finalement d'autres auteurs qui doivent reprendre Star Wars parce que l'auteur a trahi. Il n'y a pas ça chez Hergé, bien sûr, parce que Hergé, il y a 23 ou 24 albums selon qu'on considère ou pas que l'Alphard est un album. Et ces albums, on les a relus et quelque part, Hergé qui existe, mais qui est presque aussi une abstraction, puisque ce nom Hergé, comme le disait...
Il est une abstraction comme Tintin. Hein. Tintin, on peut dire que c'est une sorte de réalité, de pure réalité ou de symbole.
Oui,
on ne sait pas s'il existe vraiment Tintin.
Il n'évolue absolument pas. C'est le seul personnage qui n'évolue absolument pas. Il ne change pas, ni physiquement, ni les autres non plus physiquement, mais en tout cas dans ses comportements. Mais c'est un personnage autour duquel tout tourne. C'est-à-dire tous les personnages évoluent autour de lui. C'est une très belle idée, hein, cette idée de concilier un personnage fixe et puis des personnages mobiles. Une partie immuable que les aventures de Tintin, on oublie Milou d'ailleurs souvent après, mais c'est quand même Tintin et Milou parce que les deux sont aussi immuables l'un que l'autre. Et puis autour d'eux, ben, tous ces personnages qui gravitent et qui n'ont pas cessé d'évoluer et qui vont, comme je montre dans mon article dans Paris Match, qui vont évoquer l'évolution du modèle du héros entre les années 20 et la fin de la vie de Hergé. Et de ce point de vue-là, les aventures de Tintin, c'est pas seulement un voyage autour du monde, hein, dans différents pays, c'est pas seulement un voyage dans l'histoire, c'est aussi un voyage autour des différentes conceptions de l'héroïsme et du héros qui ont traversé notre culture depuis le début du XXe siècle.
D'ailleurs, au début, les voyages se passent beaucoup à l'étranger, puis petit à petit, ça peut être la conquête de l'espace comme simplement une aventure dans le jardin de Moulinsart.
Oui, complètement. Et au début, Tintin est un héros qui est sûr de ses valeurs et qui est soutenu par sa communauté. Et puis, petit à petit, c'est un héros qui va devenir plus complexe, non pas dans sa mentalité, mais dans l'environnement dans lequel il va se trouver, et jusque finalement au fait qu'il ait affaire à des méchants qui sont plus vraiment méchants du tout, puisque à la fin, Rastapopoulos s'est tourné en ridicule par Alan. Alors que dans d'autres albums, ces deux personnages apparaissaient comme des malfaisants absolus. Voilà.
Ou que la voleuse n'est qu'une simple pie.
Il y a tout ce travail d'autodérision.
Tout cela s'est fait comme de soi-même. Je trouve que c'est la beauté de la chose parce que quand on en parle rétrospectivement, on essaye de donner du sens et de la logique à tout cela, de dire il a composé sa famille de papier en faisant... Or, que s'est-il passé? Il crée Tintin et Milou, comme ça, presque d'un jour à l'autre, sans imaginer aller au-delà d'une aventure. Et puis, petit à petit, il éprouve le besoin d'ajouter des figures secondaires à mesure que lui-même mûrit, se transforme. Et l'œuvre reste vivante. Il n'y a jamais de système Tintin. Vous savez, il y a beaucoup de séries de bandes dessinées où des auteurs, à 25 ou 30 ans, créent un petit monde. Et puis toute leur vie, ils vivent avec cet héritage de jeunesse et ils se désynchronisent peu à peu de leur œuvre. La beauté de l'œuvre d'Hergé, c'est d'avoir introduit les personnages au fur et à mesure, d'en avoir épaissi certains, d'avoir fait entrer des préoccupations plus adultes, comme dans Tintin au Tibet. Bon, comme effectivement Serge Tisseron évoquait la question de la séparation, qu'Hergé vit dans son couple à ce moment-là et qui
avec
est posé
son personnage,
en
disant,
est-ce qu'il vaut mieux qu'un souffre ou les deux ?
La relation qu'il a avec Tintin, elle évolue. Il y a quand même une période où il trouve Tintin pesant, où il dit que Tintin le hante, et puis petit à petit on a l'impression qu'à la fin de sa vie, dans les dernières interviews qu'il donne, il est réconcilié avec Tintin, il n'aurait pas envie de le changer.
En fait, à la fin de sa vie, encore une fois, il se cache derrière Tintin. Et il faut dire aussi, malheureusement, qu'il a eu peu l'occasion de répondre à des questions intéressantes dans les interviews, que ce soit à la télé ou à la radio. Et donc, on n'interrogeait pas l'artiste, on interrogeait le papa de Tintin. Et donc, il était toujours, finalement, dissimulé derrière son personnage.
Merci à tous les trois. À noter les rééditions des biographies de Benoît Mouchard et François Rivière, Hergé intime, et de Benoît Peters, Hergé fils de Tintin. Et des actualités Tintin dans tous les sens, la sortie de la grande aventure du journal Tintin chez Moulinsart et l'exposition Hergé à venir au Grand Palais le 28 septembre prochain.
France Culture, la grande table d'été, Maïlys Bessery.
Et c'est l'heure du live de Cocoon qui nous interprète Miracle.
Bonjour, merci de me recevoir. Sleeping soundly in the bed,
and me driving us home. That's when I really knew we truly had a home. Now everything's making sense. And I was blind, but now I see. You are right before my eyes. There is a cherry tree growing in the garden. Everything's making sense. And every morning when I see you, it's the most gorgeous of days. Every morning when I see you, it's the most gorgeous of days. Your lily wrapped around my finger. Now I can believe in miracles. I have never felt so scared. All these beeps and lights keeping you awake. I wrote a song to compensate. And every morning when I see you, it's the most gorgeous of days. Every morning when I see you, it's the most gorgeous of days. Your little end wrapped around my finger. Now I can believe in miracles. Oh, you mean more to me than I can say. You mean more to me than I can say. You mean more to me than I can say. You mean more to me than I can say. You mean more to me than I can say. You mean more to me than I can say. You mean more to me than I can say. You mean more to me than I can believe in miracles.
C'était Cocoon, l'album Welcome Home sort aujourd'hui dans les bacs. Il sera notamment en concert à Rennes, Paris, Lille, Toulouse ou encore à Strasbourg. Toutes les dates sont à retrouver sur les pages web de la Grande Table d'été. Écrivain, scénariste, parfois réalisateur, Benoît Peters est un artiste philosophe touche-à-tout. Il est aujourd'hui l'invité du portrait de la Grande Table. Vous restez là avec nous, Benoît Peters. Peut-être d'abord quelques mots pour réagir sur la mort que l'on a apprise hier, avant-hier, de Michel Butor.
Oui, oui, l'auteur du fameux roman fictif La Consolidation, avons-nous appris. Mais Michel Butor mérite mieux que ses approximations à son propos. C'est
alors
un écrivain qui a eu un parcours extraordinaire, qui est une des figures clés du nouveau roman, qui est un mouvement qui a énormément compté pour moi dans ma jeunesse, dans mes premiers travaux littéraires. Et donc La Modification, oui, qui est le premier nouveau roman qui a eu un immense succès, avec prix Renaudot en 1957, devenant ensuite un classique scolaire, cache parfois un peu la diversité de cet expérimentateur permanent, de ce voyageur des mots et des formes qu'était Michel Butor, essayiste, poète, romancier, homme de radio aussi. Et c'est certainement, même si peut-être par ma trajectoire personnelle, j'ai été plus proche d'Alain Robbe-Grillet ou de Claude Simon, c'est une œuvre qui reste vraiment un monument de la seconde moitié du XXe siècle.
Alain Robbe-Grillet, que vous avez approché, rencontré, avec lequel vous avez fait un certain nombre d'entretiens, et on va en écouter un extrait, un peu sous la forme d'un portrait chinois.
J'aime la vie, je n'aime pas la mort. Pourtant, j'aime assez ce qui demeure immobile. J'aime les chats, je n'aime pas les chiens. J'aime l'impression d'éternité, les vieilles demeures de province au décor immuable, les lourds velours rouges passés depuis toujours, la mousse dans les allées, les carpes entre deux eaux dans les bassins. Je n'aime pas le téléphone, je n'aime pas la voiture. J'aime les longs voyages en chemin de fer. Paris, Bucarest, New York, Los Angeles, Istanbul, Téhéran, Moscou, Khabarovsk.
Benoît Peters, qu'est-ce qu'il représente dans votre imaginaire, Alain Robbe-Grillet ?
D'abord, ce texte est plein de résonance pour moi, je pense pour pas mal de gens, parce que c'est aussi un écho du « j'aime, je n'aime pas » de Roland Barthes, et qui a été un de mes maîtres. Alors, Robbe-Grillet était une figure à la fois extrêmement ouverte et généreuse. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, il a répondu à la première lettre que je lui ai envoyée. Enfin bon, on s'est assez bien connus. En même temps, c'était quelqu'un d'intimidant qui jouait volontiers les ogres ou les dragons, qui aimait parfois vous mettre en boîte. Et même dans les entretiens, les grands entretiens filmés que j'ai réalisés tardivement avec lui, il m'arrivait de me sentir encore un petit peu le jeune admirateur intimidé. C'est quelqu'un qui a secoué la littérature française. Il l'a secoué avec les articles rassemblés plus tard dans Pour un nouveau roman, et il l'a secoué à travers un certain nombre de livres très différents les uns des autres, qui étaient vraiment chacun des expériences très puissantes. Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie, Dans le labyrinthe, La Maison de rendez-vous. Puis il est le scénariste, on le sait, de l'année dernière à Marianne Bad, quand même une date dans l'histoire du cinéma. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a continué à lutter contre les académismes, les préjugés, les certitudes. C'est quelqu'un qui a pensé que le monde était troué, que son sens nous échappait et que la littérature ne pouvait pas se prolonger dans les formes rassurantes héritées du XIXe siècle. Voilà, c'était cela. Mais c'était aussi quelqu'un de drôle. C'est quelqu'un qui semblait avoir banni le récit de ses romans. Enfin, c'était en tout cas la mythologie qu'il y avait à son propos, alors que c'était un merveilleux raconteur d'histoire. Et c'est quelqu'un qui m'a encouragé à mes débuts. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le nouveau roman, comme le travail de gens comme Pérec ou Queneau, Loulipo, etc., ce sont des mouvements qui ont ouvert les possibles, alors que pour un certain nombre de critiques, de lecteurs ou d'écrivains, c'était des gens qui faisaient peur et qui interdisaient. De la même façon, avec Barthes, dont j'ai eu la chance d'être l'élève, j'ai été encouragé, par exemple, c'est Barthes qui m'a encouragé à faire mon diplôme de fin d'études à l'École pratique des hautes études sur Tintin. Il n'était pas un grand lecteur d'Hergé, mais il m'a dit « Bon, vous avez l'air d'être passionné par le sujet, c'est quelque chose de neuf, allez-y ».
C'est sous le signe de l'ouverture que vous êtes entré aussi en écriture et en littérature, puisqu'il y a eu d'abord cette histoire avec les éditions de Minuit, et puis petit à petit, c'est comme si vous n'étiez jamais arrêté dans l'ouverture. Écrire à partir de photos, écrire des scénarios, écrire avec des supports toujours différents. Alors là, c'est le côté butorien de votre œuvre.
Oui, par certains côtés. J'ai aimé la diversité, je n'ai pas vraiment prolonger mes expériences dans le roman, peut-être y reviendrai-je un jour, mais je suis parti vers d'autres formes, et surtout dans l'écriture en collaboration. Alors avec la photographe Marie-Françoise Plissard, pour plusieurs récits photographiques, on pourrait dire un peu romans photos, mais des romans photos différents, qui étaient parus aux éditions de Minuit, chez Autrement, et puis surtout en bande dessinée avec Françoise Keuten ou Frédéric Boilet, ou d'autres auteurs encore, où j'ai eu le sentiment que la rencontre avec l'image, que la rencontre avec l'autre, la collaboration, loin de me limiter, m'ouvrait de nouvelles possibilités. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'un livre fait en collaboration n'était pas un livre réalisé pleinement. C'est un peu, pour prendre une métaphore simple, comme un enfant. Si vous êtes le père ou la mère d'un enfant, vous ne vous sentez pas moins père ou moins mère par le fait qu'il y a un autre parent. Et je pense que dans un livre en collaboration, voilà, c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est pleinement mien et pleinement celui de l'autre.
Benoît Peters, cette façon de compiler un peu les imaginaires, de les empiler ou de les rassembler, c'était déjà présent dans votre écriture, puisque vous avez fait des livres hommages ou des livres biographiques.
Oui, j'ai l'admiration heureuse, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont jaloux un peu du travail des autres. Moi, j'aime le travail d'autres créateurs. Je m'enthousiasme assez facilement. J'aime rencontrer les gens dont j'apprécie le travail. Ça a été le cas, par exemple, de Raoul Ruiz, grand cinéaste chilien installé en France après le coup d'État de 73 et qui est devenu un ami. Bon, on a fait des choses diverses ensemble. Par moments, on se voyait beaucoup. À d'autres moments, moins, mais j'ai toujours accompagné sa création. Et ça a été une aventure, ça a été une manière d'entrer dans le monde du cinéma avec quelqu'un qui était la créativité et la joie incarnée, qui ne se plaignait jamais. Voilà, je n'ai peut-être rien fait dans une seule direction, en creusant une seule direction, comme des écrivains que j'admire peuvent le faire. Je sais pas, j'admire le parcours d'un Echenoz, d'un Modiano, d'un Pierre Michon, qui sont des gens qui creusent leur sillon toute leur vie. Je crois que je n'étais pas fait
pour cette sorte de solitude. Je n'étais pas fait pour développer une œuvre purement littéraire. Mais j'ai aimé toucher au travail de réflexion comme au travail de fiction, à des arts nobles comme à des arts un peu dédaignés, quoique maintenant on s'aperçoit que ces frontières s'abolissent souvent.
On va écouter un petit extrait du film que vous avez réalisé.
Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible! Mais pourquoi il vient pas?
Non, Ludovic, ça sert plus à rien!
Oh, bah, ça sert à rien! Pavel, recule-toi!
Là, il faut peut-être ajouter un petit mot sur l'image.
Ah oui, le dernier plan. Racontez-nous, selon votre âge, que vous avez réalisé.
Dans cette scène, Pierre Arditi, qu'on entend, qui avait fait l'amitié de participer au film, est confronté à la vitrine d'un restaurant et son collègue s'agite comme s'il était prisonnier, bloqué. Et donc, Arditi se saisit d'une lourde poubelle, enfonce la vitre, mais derrière la vitre, il n'y a rien. Le personnage a disparu, le restaurant a disparu, il ne reste qu'un fond vide, une sorte d'immense hangar. Donc c'est un jeu sur l'illusion, sur les deux dimensions et trois dimensions. Voilà qui fait partie de ce film un petit peu étrange, qui est ma seule incursion dans le long métrage de fiction. Ce que j'ai fait surtout au cinéma, c'est des documentaires et souvent des portraits.
C'est d'ailleurs encore l'histoire d'un écrivain. Ce film.
Eh oui. Un écrivain roumain qui n'arrive plus à écrire, qui est un dissident un peu perdu après la chute de Ceausescu, perdu au moment où il est libéré, qui se lance dans un film qui n'aboutira pas. C'est un film enquête, comme était mon premier roman, finalement, Omnibus, qui était une enquête sur Claude Simon.
Et comme seront vos films documentaires par la suite? Il y a ce procédé de l'enquête que vous aimez, un peu d'ailleurs comme vous prenez Tintin sous l'angle de l'enquête aussi.
J'essaye de faire des choses différentes, mais je crois qu'on est hanté par quelques thématiques. Par exemple, une thématique qui m'a toujours fasciné, c'est les frontières entre le vrai et le faux, les possibilités de la mystification. Et c'est au cœur de la série des Cités Obscures que j'ai développée avec Françoise Cuyton. C'est un monde quasi réel, un quasi monde, comme on dit quelquefois. On essaye de lui donner autant de consistance que possible, mais en même temps, quand certains de nos lecteurs ou de nos lectrices le prennent un peu trop au sérieux, on ne voudrait pas que ça tourne à la secte. Mais voilà, j'aime ce jeu du vrai et du faux. C'est vrai que Omnibus, par exemple, ce premier roman, était une biographie fictive de Claude Simon. Je lui attribuais même le prix Nobel. C'était en 76, il l'a eu seulement en 85. J'essayais donc d'y faire croire.
C'était peut-être prémonitoire, pas imaginaire.
Oui, en tout cas, c'était l'expression de mon désir. À l'époque, je pensais déjà qu'il le méritait. Et c'était nourri de beaucoup, beaucoup d'informations puisées dans ses livres, mais autour de ses livres aussi. Et donc, quelque chose d'assez étrange où parfois je m'interroge sur ma responsabilité. Je me dis, mais est-ce qu'on peut vraiment jouer avec ces limites du vrai et du faux? Et pourtant, voilà, ça fait partie de moi et je crois que ça fait partie du plaisir que certains peuvent éprouver à la fiction. Qu'est-ce que c'est que la fiction? Sinon, cette fabrication de mondes légèrement décalés, grands ou petits, dans lesquels nous jouons à entrer et à travers lesquels, sans doute, beaucoup de choses qui nous touchent peuvent passer.
Mais même dans vos documentaires, on sent la fiction.
Vous avez travaillé sur le chantier Louise. Est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison vous l'avez quitté?
Des ans.
Vous m'aviez dit que vous aviez entendu des voix. À quoi ressemblaient-elles?
Des voix bizarres, mais très fortes. C'est pour ça que les ouvriers, ils ont pris peur, quoi.
Je parie que vous allez me parler de Bruxelles.
Quoi?
Bruxelles.
C'est quoi ça?
Enfin, mademoiselle, quantité de gens viennent me parler de Bruxelles en disant, vous l'historien, vous avez dû connaître Bruxelles. Et ça fait 40 ans que je m'occupe de Bruxelles. Et Bruxelles est une espèce de cité imaginaire comme ça. Et un tas de gens croient qu'elle a vraiment existé. Et on me casse les pieds avec ça, mademoiselle. Et c'est un mythe, c'est une histoire de fou. Davantage qu'une légende, c'est une conviction chez certains bruxellois. Et pas des imbéciles tous, ils y croient.
Benoît Peters, vous allez faire un documentaire, vous partez vraiment à la découverte de Bruxelles, de la bruxellisation, de l'histoire de l'architecture, etc. Mais à travers ça, vous allez chercher la ville imaginaire, les fantômes, les fantasmes sur la ville.
Avec François Skuyten et un réalisateur de la télévision belge, Will Burlegub, nous voulions parler de Bruxelles et raconter cette histoire urbanistique catastrophique. Dans les milieux urbains, on parle quelquefois de bruxellisation pour la destruction méthodique d'une ville. Mais pour on voulait en parler par un... La ville s'est autodétruite parce qu'elle ne s'aimait pas. Elle a rêvé d'être Paris, elle a rêvé d'être Londres, elle a rêvé d'être New York. Et à chaque fois, elle s'abîmait un peu plus. La jonction ferroviaire entre la gare du Nord et la gare du Midi qui a éventré la ville profondément, puis les institutions européennes, enfin bon, beaucoup de choses. Mais nous ne voulions pas raconter cette histoire de manière didactique. Nous voulions la relier à cet album des Cités Obscures qui s'appelle Bruxelles, qui est un traitement plus métaphorique. Et alors, on a rencontré de vrais acteurs, un vrai historien de la ville, un ancien premier ministre belge qu'on a un peu piégé, il faut bien le dire, des architectes, etc. Et peu à peu, cette histoire glisse de l'authenticité historique à la métaphore. Alors c'est un film qui, en Belgique, a eu beaucoup d'impact, et nous avons même été après interpellés politiquement là-dessus. On nous avait accusé, François Skuyten et moi-même, de nuire au tourisme. De manière étrange, quelques années plus tard, les lieux qu'on décrit dans ce film, les lieux qu'on montre dans ce film, ont eux-mêmes fait partie d'un circuit touristique. Comme quoi la ville doit vivre aussi avec tout cela.
Ce qu'on retrouve Benoît Peters dans ce film et qu'on retrouvera ensuite dans les bandes dessinées, dans les scénarios des bandes dessinées, c'est cette obsession pour la ville. La ville est tout ce qu'elle métaphorise, mais aussi pour la question du temps. Alors, le temps et ses allers-retours entre un passé, un futur ou un rétro-futur. On a ces allers-retours comme ça qu'on observe dans les imaginaires et qui déjà existent aussi dans votre écriture visuelle.
Oui. Écoutez, je suis un enfant des villes. En même temps... J'ai eu la chance de rencontrer François Skuyten, qui est un ami d'enfance, dont
c'est
le père
Dupont
était architecte.
À vous, hein.
Oui, enfin, on est bien différents l'un et l'autre, mais on est complémentaires, on s'entend très bien. Tiens, soit donc a grandi dans un milieu architectural. Son père est un de ceux qui a forgé le Bruxelles, qui nous gêne un peu, le Bruxelles des années 60, des années 70. Et j'ai travaillé pour lui, j'ai écrit avec lui. Pour lui, en m'appuyant sur ce qu'il savait faire, sur des documents que nous retrouvions. Et voilà, on s'est trouvé dans cette espèce de futur antérieur, qui est un peu notre marque de fabrique. Souvent, on se dit, c'est un futur qui aurait pu avoir lieu.
C'est
un conditionnel passé.
Ville.
C'est de nouveau la fiction en tant que telle. Puis c'est aussi les pouvoirs de la bande dessinée. Bon, on va pas se comparer à Hergé, mais souvenez-vous qu'Hergé a forgé des pays comme la Sildavie et la Bordurie. C'est un plaisir immense. Et en même temps, pour lui, c'était par exemple, quand il fait le sceptre d'Ottokar, il peut traiter de l'approche de la Seconde Guerre mondiale sans risque d'avoir des plaintes de l'un ou l'autre pays. Donc nous avons aussi traité du réel à travers les pays imaginaires. Mais je crois surtout, même s'il m'arrive d'être un analyste attentif du travail des autres, que pour son propre travail, on ne sait pas ce qu'on fait. Profondément, j'ai l'impression que le cœur de ce que j'ai pu faire, peut-être de ce qu'il y a intéressant dans ce que j'ai fait, m'a échappé. Que par exemple, la collaboration, c'est une ruse de la raison. En ayant l'air de vous mettre au service de l'autre, vous révélez des parties de vous-même dont vous n'avez pas pleinement conscience. Chacun fait accoucher l'autre de ce qu'il est. Chacun est le psychanalyste de l'autre. Mais un psychanalyste qui n'est pas là pour comprendre le passé, mais pour en faire quelque chose.
Et il faudrait d'ailleurs dire quelque chose du travail de François Skuyten. Il y a ces dessins, ce graphisme très particulier, architectural, et ce travail immense sur la ville, puisque justement, dans Revoir Paris, l'idée, c'est d'imaginer Paris telle qu'elle aurait pu être ou telle qu'elle pourrait devenir.
Oui, c'est ça. On est toujours entre conditionnel, le futur antérieur. On n'est pas dans la science-fiction, on n'est sûrement pas dans le récit historique. On est dans une forme de fantastique, mais de fantastique auquel on veut croire. Une de nos premières histoires, La fièvre d'Urbicande, raconte le surgissement dans une ville monumentale, une ville rude, d'une structure cubique. Et cette structure, d'une matière inconnue, se développe, envahit le bureau de l'urbatecte, tel personnage principal, puis toute la ville. Eh bien, ce qui nous intéressait, c'est qu'on croit à ce postulat, de montrer les choses très minutieusement au début pour que ce phénomène ait allure bizarre. Un autre phénomène d'allure bizarre, c'est dans L'enfant penché, une jeune fille qui est inclinée à 30 degrés, brusquement. Et donc ça change tout le comportement des autres autour d'elle, plus que ça ne la perturbe elle. Eh bien, à chaque fois, on essaye de rendre cela crédible. Parmi les gens qui m'ont le plus marqué, les auteurs qui m'ont le plus marqué, il y a évidemment Kafka, les nouvelles de Kafka, Borges,
à travers ces fictions.
Vous avez consacré une biographie.
Et ce sont des auteurs qui comment vous dire cela ? Ce sont des auteurs qui nous font glisser dans un monde autre et qui créent des images mémorables, des situations mémorables. Vous pourriez vous dire, en lisant La Métamorphose de Kafka, après tout, c'est un postulat de littérature de gare, quoi. C'est de la littérature gore, de se transformer ainsi en une espèce de cloporte épouvantable. Mais tel que Kafka nous le raconte, nous entrons dans l'histoire. Je crois que ce sont des œuvres, celles de Borges, celles de Bioy Casares, celles de Kafka, qui nous ont marqué très très profondément, François et moi. Et simplement, nous avons la chance, ne travaillant pas sur un art aussi constitué, avec une histoire aussi longue que la littérature, nous avons la chance, dans la bande dessinée, de pouvoir faire des greffes, des associations, de combiner des gravures du 19e avec de la littérature qui nous fascine, avec des films d'aujourd'hui, des voyages qu'on a fait.
Cette écriture visuelle, justement, le fait d'écrire pour le dessin, pour la bande dessinée, est-ce que ça permet une écriture plus philosophique? On a l'impression que vous vous situez toujours dans une sorte de méta. Vous êtes au-dessus, c'est la ville qui vous intéresse plus que les personnages, c'est la structure.
Oui, je ne sais pas. La philosophie, c'est ma formation première. Je l'ai rencontrée plus fortement en écrivant la biographie de Jacques Derrida, qui est un philosophe technique et complexe.
J'ai mais toujours les thèmes d'Hérédien, on les retrouve aussi dans la bande dessinée,
oui, alors, j'ai toujours l'impression d'écrire des choses relativement innocentes dans la fiction, mais il est clair qu'on ne fait les livres qu'avec ce qu'on est, avec tout ce qu'on est, avec son côté peut-être ludique et infantile, avec un côté plus intellectuel, avec ce qu'on a vécu, avec ce que l'autre a vécu, ce qu'on pressent de lui, et puis avec nos limites, évidemment, parce qu'on rêve toujours de faire un livre qui soit vraiment le livre, qui soit vraiment tout à fait ça, et finalement, et c'est peut-être une des choses que j'ai appris de Raoul Ruiz, dont je parlais tout à l'heure, il y a des auteurs qui sont faits pour faire une grande œuvre, et d'autres, pensons à Proust, exemple suprême, et d'autres qui peut-être font des petits bouts de choses réussies à travers la prolifération du travail, et l'œuvre se fait comme malgré elle, par petits bouts, et c'est le lecteur qui la recompose à travers ses propres goûts, ses propres interprétations. Il n'y a aucun livre que j'ai fait dont je sois totalement satisfait. Alors je vais plus loin, j'essaie d'aller autrement.
Alors le livre-monde, puisque vous qui vous intéressez au concept de la ville-monde, ça serait le livre-monde que vous chercheriez à faire. Là, dans Revoir Paris, comme dans Les Cités Obscures, on retrouve cette notion-là de globalité, de ville comme un ensemble, justement, dans lequel les humains, finalement, errent un peu.
Oui.
Entre l'espace et le temps, totalité, tout se transforme.
La totalité est un pur fantasme pour moi. Je suis très sensible, au fond, à quelque chose qui se défait, à un sens qui bifurque, aux fragments, aux miettes. Mais avec tout cela, j'essaye à chaque fois de bâtir de l'unité.
Cette
phrase magnifique de Paul Valéry, deux dangers menacent le monde, l'ordre et le désordre. Et je pense que pour un créateur, il y a ça tout le temps. Il faut du désordre. Il faut de l'ordre, mais ce sont des structures dynamiques. Les Cités Obscures, par exemple, c'est un ensemble de livres que vous pouvez prendre par n'importe quel bout. Vous pouvez prendre L'Archiviste, Les Murailles de Saint-Maries, La Frontière Invisible comme premier titre. Si ça vous plaît, vous allez plus loin, sinon c'est autonome. Mais même si vous avez lu les 15 ou 16 albums de la série, de toute façon, le puzzle restera incomplet, l'univers restera troué. Ce sont des images aussi qui me viennent probablement de grandes lectures de ma jeunesse, celles de Barthes et Derrida, mais aussi de Deleuze et Guattari, à travers la notion de rhizome, à travers l'idée de mille plateaux, les choses s'enchevêtrent. On n'est pas là pour forger un grand tout, on n'est pas là pour poser un sens définitif, mais pour être dans l'inquiétude. Alors bon, ça ne passe pas sur un mode didactique, c'est pas destiné à être explicatif, simplement ces images-là ont contribué à me faire. C'est comme dans La Vie mode d'emploi de Pérec, où on a un immeuble, on a une structure complexe avec 100 cases, mais il y a une case qui manque et qui fait vivre tout le système.
Benoît Peter, s'il y a un sujet qui revient à travers vos films, mais aussi à travers votre bande dessinée, c'est la question des traces de l'histoire dans l'architecture, des fragments, ou alors de l'histoire qu'on aurait mise sous cloche, quoi, la ville qu'on enferme, qui devient un musée et qui n'est plus vivante.
Oui, c'est curieux. Il y a une sorte d'obsession de la trace, et pourtant j'ai vécu récemment un événement qui m'a secoué, puisque l'appartement que j'habitais, l'immeuble que j'habite à Paris, a été soufflé par une explosion de gaz, et toute ma bibliothèque, tout ce que j'avais, a été détruit par l'incendie. Et donc j'ai réfléchi autrement sur les traces, et sur une sorte d'étrange
je vais pas dire détachement, mais d'une forme de détachement que j'éprouvais par rapport à ma bibliothèque et mes papiers perdus. Et sans doute que c'était rempli d'échos avec ce que je cherche, c'est-à-dire à la fois la passion de la trace et peut-être la peur. Il y a un de nos albums qui s'appelle L'Archiviste avec François. Et quand j'ai fait des biographies, je suis en quête des traces.
Vous avez un côté archiviste comme ça.
Et voilà, mais je serais un archiviste qui accepte brusquement le dépouillement. Donc là aussi, je suis entre ces deux pôles. Peut-être la passion de collecter les choses, les traces de la vie des autres encore plus que les miennes. Et en même temps, peut-être l'acceptation du fait que nous sommes pris dans quelque chose qui passe, dans du sable, qui se défait, emporté par le vent. Un château de sable, finalement, qu'est-ce que c'est que les cités obscures, sinon un château de sable juste au bord de la mer avant que la marée ne monte.
La ville qui revient, il y a plusieurs villes d'ailleurs. On devrait dire les villes, puisqu'il y a eu Bruxelles, qui existe aussi dans votre œuvre cinématographique, enfin dans vos films et dans vos documentaires.
Il y a même une maison qu'on peut visiter, qui s'appelle la Maison Autrique à Bruxelles, Maison Art Nouveau, et elle est dans un de nos albums, mais elle se visite dans la réalité comme une maison de Victor
Horta.
Alors
ça, vous aimez beaucoup. Quand l'imaginaire et le réel se frottent un peu, il y a tout le fantasme du palais de justice qui est à Bruxelles, qui est l'objet de beaucoup d'histoires, beaucoup de plaisanteries.
J'aime le trouble, le tremblement du réel, le tremblement du désir. Voilà, ce sont des choses. Communiquer du trouble, mais un trouble qui ne soit pas noir et négatif au lecteur, mettre un peu d'incertitude et philosophiquement peut-être être du côté de la question beaucoup plus que de la réponse. Voilà les choses qui m'importent.
Et voilà ce qu'en disent les Belges.
Dans le quartier des Marolles, le mot architecte est devenu une insulte. Début de ce siècle, une jonction ferroviaire est ouverte entre la gare du Nord et la gare du Midi. La ville est déchirée en deux. Le chantier s'étalera sur près de 50 ans. 1958. L'exposition universelle va s'ouvrir. La ville subit une nouvelle série de chocs. Le creusement des tunnels et de la petite ceinture, le triomphe des parkings. La ville se consacre entièrement à la voiture et au bureau.
Bruxelles devient le laboratoire architectural, le laboratoire aussi de la technologie, du développement urbain, du développement politique avec l'Europe. Et on sent que ça, c'est un objet d'étude qui vous intéresse. Puis là, dans Revoir Paris, c'est votre ville qui est au centre.
Oui, moi je suis vraiment, j'ai toujours été entre ces deux villes. Je suis né à Paris, j'ai passé toute mon enfance et une partie de mon adolescence à Bruxelles. Mon père était fonctionnaire aux communautés européennes. J'ai fait mes études à Paris, c'est là que j'ai rencontré Bartre, Opgris, etc. Je suis revenu à Bruxelles pour des raisons sentimentales. Depuis un certain nombre d'autres années, je suis revenu à Paris pour des raisons aussi largement sentimentales, mais aussi parce que j'ai autant d'attachement, sinon plus pour Paris que pour Bruxelles. Donc ce sont deux pôles. Paris est un modèle urbain fort et qui étouffe peut-être sous sa propre force. Le problème de Paris, c'est une des choses qu'on évoque de manière sous-jacente dans Revoir Paris. Le problème de Paris, c'est d'accepter de sortir de la muséification, d'accepter de s'ouvrir, de s'agrandir, de faire du Grand Paris une réalité physique et mentale.
Mais c'est ça qui lui a épargné la bruxellisation aussi.
Je ne sais pas. Oui, ça lui pose d'autres problèmes aujourd'hui. Le problème de la force de Bruxelles, c'est d'être une ville à identité faible, à pouvoir faible, une ville traversée de contradictions et donc qui nous a obligés, graphiquement et narrativement, à la réinventer. Beaucoup d'artistes aiment Bruxelles, il y a de grands espaces, on y vit certainement plus facilement. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Et donc, n'appartenant vraiment ni à Bruxelles ni à Paris, peut-être un petit peu plus au train qui les relie l'une à l'autre. Voilà, je suis un nomade. Je suis un nomade dans mon travail d'auteur et de critique, et je suis un nomade dans la vie. Finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir travailler à peu près n'importe où avec le petit ordinateur qui m'accompagne partout et qui, heureusement, était avec moi au moment où mes biens matériels ont été détruits. Et finalement, je trouve peut-être ma vérité aussi dans cette unité-là, l'unité du nomadisme. Pendant longtemps, c'était des choses mal considérées. On employait un vilain mot à propos de gens comme moi, c'était touche-à-tout. Et puis aujourd'hui, je vois qu'on emploie un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot éclectique. Il y a tout un chemin de touche-à-tout, où on a l'impression que touche-à-tout, mais ne fait rien, quoi. Finalement, touche-à-tout, mais superficiellement. Éclectique, c'est garder des choix. Oui, quand j'étais jeune, j'aimais Robespierre, mais j'aimais Hergé. J'aimais Roland Barthes, mais j'aimais aussi Jules Verne ou Alexandre Dumas. J'avais pas besoin de choisir. Au cinéma, j'aime Ruiz et Godard, mais j'aime Hitchcock, Wells et bien d'autres. Et donc, pourquoi devrait-on choisir entre la réflexion et la création, entre le sérieux et la légèreté? Voilà. Pourquoi? Eh bien, j'ai l'impression que de plus en plus de gens dans la sensibilité d'aujourd'hui rejoignent cette idée, et ça me rend heureux.
Merci Benoît Peter. Je rappelle que le tome 1 de Revoir Paris est déjà disponible et que le 2 sortira au mois d'octobre chez Casterman. La grande table d'été est terminée. Nous replions la nappe et laissons la place à Olivia Gesbert qui, dès lundi, remettra le couvert. D'immenses remerciements à la talentueuse équipe de la grande table du mois d'août. Anaël Fakir, Thibaut Bécchini, Julien Rosa, Justine Richard et Alexandra Madoyan. Aujourd'hui, la prise de son était assurée par Pierre Faucillon. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.